Bonjour. Là, je suis un peu sur le coup de l'émotion parce que je viens d'avoir une confirmation par Maëlle là, de ce que je vais vous partager, puis de ce qui est dans mon cœur là depuis quelque temps. Cette formation, elle a été vraiment très riche, très intense. Pour moi, ça m'a fait énormément de bien. J'ai même plus envie de lire mon truc. Parce que, en fait, ça a réconcilié en moi tout ce qui vient du ciel et tout ce qui vient du terrestre. Parce que moi, j'ai remarqué que j'avais en moi deux côtés, tout ce qui est du spirituel, de la prière, des dons de l'esprit dans tout ce qui est du domaine spirituel, mais aussi j'ai quelque chose qui brûle en moi d'aller vers les gens qui ont besoin. Et pas que spirituellement, mais aussi matériellement. J'arrivais pas à réunir les deux. Donc dans cette formation, Luc Maroni, il a pu vraiment nous montrer combien dans la Bible, la place de l'économie était très importante. Il a insisté sur le fait que la parole de Dieu dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. Et il a dit aussi qu'ils avaient reçu à Séoul une Bible où tous les versets qui traitaient de l'argent, de l'économie, était en doré. Et si on prend la Bible et qu'on fait comme ça, là, vous voyez, hop, hein, on fait passer les feuilles, et ben en fait, au final, tout est doré, pratiquement. Donc c'est une place très importante. Et d'où ben, l'importance de savoir comment on doit, en tant que chrétien et en tant qu'Église, comment on doit savoir gérer cet argent que Dieu nous donne, tous ces biens que le Seigneur nous donne. Donc, comme je disais, ce qui m'a le plus marqué au départ dans cette formation, c'est vraiment cette réconciliation de tout ce qui est du domaine purement spirituel, c'est-à-dire de tout ce qui est du ciel, de là-haut, et de tout ce qui est de l'ordre du matériel, de l'ordre du terrestre, de l'ordre du faire. Parce que, au final, on a souvent tendance à séparer tout ce qui est de nos activités spirituelle et de nos activités charnelles. Moi, j'étais habituée, souvent, quand j'entendais parler, c'était du style, je me souviens d'une sœur qui avait dit, oh, il faut acheter un lave-vaisselle. C'est au début, c'était, on n'avait pas tous des lave-vaisselles. Et il faut un lave-vaisselle comme ça va donner plus de temps pour prier, pour faire. Et ça, c'est vrai, c'est super. Mais en fait, on se réalisait que en fait, il fallait faire vite, vite, vite nos tâches quotidiennes, nos tâches de tous les jours, ce qui paraissait complètement banal, pour donner du temps au Seigneur. Et moi, j'étais comme ça. En fait, les personnes qui m'entouraient, c'était ça. Là, pour la plupart. Hein. Bon, ça fait plus de 40 ans que je suis convertie. Alors, vous voyez, ça date. Hein. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que non, on ne peut pas séparer les deux. Nous avons besoin dans nos vies et dans nos églises de ramener vraiment le ciel sur la terre. Il faut que le ciel s'incarne sur la terre. Parce que Dieu dit, quoi que tu fasses, fais-le pour la gloire de Dieu. Donc du coup, ça réunit la prière et l'action. Parce qu'il n'y a pas d'action sans prière et sans direction du Saint-Esprit. Mais si on ne fait que prier, ça ne sert à rien. Parce que si ce n'est pas suivi d'une action, eh ben, ça aboutit à rien. C'est Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. En fait, on manifeste notre amour au travers de nos actions. On se rend compte qu'il y a d'énormes besoins dans le monde. Et notre Église occidentale, elle doit revenir vraiment elle doit redevenir missionnelle. notre champ de mission, il s'élargit. Il va au-delà des quatre murs de notre Église. Tout ce que je vous dis, hein, c'est, j'ai appris dans la formation, hein, ça, c'est venu vraiment conforter dans mon cœur des choses. L'Église d'aujourd'hui, en Occident, elle doit comprendre qu'à ses portes se trouve une société non chrétienne qui ne comprend rien au christianisme et aux églises. Et malheureusement, nous ne savons plus entrer en contact avec les populations d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, des fois, quand je parle à des gens, ben, j'ai l'impression que, en fait, tout ce qui est de Dieu, de Jésus, de tout ça, ça leur passe, mais alors, à mille lieues au-dessus de la tête, ils s'en foutent royalement. Et en fait, avec notre patois de Canaan, nos façons de parler, on a du mal à les atteindre. Et là aussi, Luc nous a montré qu'en fait, il fallait qu'on soit comme Paul, grec avec les Grecs, qu'on se mette à la hauteur des gens. Donc, comme a dit Philippe, nous sommes en position d'influence. Nous devons influencer le monde chacun à notre niveau, même si on n'est pas là pour changer le monde, mais on doit influencer le monde. Et c'est vrai que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme nous a dit, je répète un peu, hein, mais on a fait la même formation. Non, nous sommes sel et lumière. Alors, le sel, quand on regarde une facette de Dieu, Dieu est créateur. Donc, nous avons un mandat culturel, c'est-à-dire que nous devons agir pour le bien des autres de manière physique, de manière matérielle, de manière, voilà. Et quel qu'en soit le résultat, parce que le Seigneur, il fait pleuvoir, Dieu fait pleuvoir autant sur les bons que sur les méchants. Donc, on doit agir. Quel que soit le résultat, on doit bénir autour de nous. Mais on doit aussi être lumière, parce que Dieu est rédempteur. Et notre mission aussi, c'est d'amener les gens à Jésus. Donc il faut agir aussi pour le salut. Donc il faut réunir. On ne doit pas être que sel, on ne doit pas être que lumière. On doit être sel et lumière. On doit être les deux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Église a oublié, depuis quelques années, quelques décennies, l'Église a beaucoup occulté ce côté sel, en fait. Ce côté qui consiste à faire des œuvres. Vous savez, par crainte de dire, oui, mais on n'est pas du monde, on ne doit pas penser comme le monde. Et puis aussi parce que dans nos pays, il y a plein d'associations qui s'occupent de plein de choses. Donc on ne voit plus les besoins et on a peur d'être perdu au milieu de tout ça et qu'il n'y ait rien qui en ressorte. Mais en fait, non. On a une identité. On est au-dessus de la mêlée. On doit être différent. On n'est pas meilleur que les autres en tant que personne comme ça, là. Mais en Christ, on est au-dessus. On est fils et filles de roi. Et on doit œuvrer. Alors l'Église, ben, c'est Dieu d'abord, ensuite c'est moi, et ensuite c'est les autres. Et moi, et ben, voyez, c'est moi, c'était compliqué. Et là, il a fait ressortir quelque chose qui est important pour moi et que le Seigneur travaille beaucoup en ce moment. Moi, alors je ne suis pas un individu. Un individu, c'est quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. C'est une personne qui va regarder ses intérêts. Vous savez comme ça fonctionne maintenant. Moi, on fait des choses pour être bien. Mais on n'est pas des individus, on est des personnes. On est des personnes qui comptent aux yeux de Dieu. Et je dois prendre conscience que Dieu m'a donné des dons. Il m'a donné des dons, pas pour moi-même, mais pour les faire fructifier, pour les mettre au service des autres. Donc, il n'y a aucun orgueil à dire, ben, Seigneur, j'ai des dons. On a tous des dons. On peut avoir un don. Dans la Bible, il y en a un qui a 5 talents. Mieux vaut avoir un petit don et le faire fructifier que 5 dons et puis les enterrer ou les garder que pour soi. Donc, nous devons apprendre à développer nos capacités personnelles sans développer l'égoïsme. Et là, il intervient le fait qu'il faut travailler ensemble. On ne peut rien faire tout seul parce qu'on est un corps. Donc, on travaille ensemble. Et il a dit une chose, alors je ne sais plus qui c'est qui avait prononcé ces paroles, mais c'était les mots les plus dangereux de la terre, c'est « je n'ai pas besoin de toi ». On ne peut pas dire « j'ai pas besoin de toi ». On a besoin les uns des autres. Il y a une chose qui m'a vraiment interpellée. Vous savez, moi, je suis fan de tous ces hommes de réveil. J'ai beaucoup lu de livres sur les hommes de réveil. Et puis, malheureusement, en France, on n'a pas tous les livres traduits. Et moi, John Wesley, c'est quelqu'un, je me disais, punaise, c'est réveil où il y a des conversions par milliers, où les bars se vident pour remplir les églises. On voit comment John Wesley, sa vie de prière, sa vie de consécration et tout ça. Mais je connaissais que ce côté-là, en fait. Je savais pas qu'il y avait tout un autre côté. Et vous savez quoi? Si on avait pu avoir toutes les traductions des livres de John Wesley en français, eh ben, on aurait pu... Enfin, moi, je ne le savais pas, peut-être vous le saviez. Mais en fait, John Wesley a développé des centaines d'actions sociales. Et il a aussi expliqué que pour John Wesley, là, le bâtiment, l'église, le lieu physique, en fait, il n'est pas consacré que pour le culte, c'est-à-dire une fois par semaine ou pour les réunions de prière ou quoi. Mais pour lui, les lieux de culte comme ça devaient aussi être consacrés et transformés en centres sociaux. C'est-à-dire qu'on fait église, on fait tout. En fait, on réunit ce qui est du cultuel et ce qui est du culturel. Alors chez nous en France, c'est compliqué parce que justement, avec les lois, tout a été séparé. Il y a une séparation et qui est difficile. C'est difficile de faire rejoindre les deux choses et c'est là qu'il va être tout le challenge en fait. Mais c'est le but en fait, c'est de dire que l'Église, elle doit aussi bien conduire dans tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, de la guérison spirituelle, du salut, bien sûr, avant toute chose, hein, parce que c'est le but au départ, mais aussi de tout, d'aller vers l'extérieur pour bénir les gens du dehors et de les amener aussi. Et John Wesley, il disait... Gagne autant que tu peux, épargne autant que tu peux. Alors, tu n'épargnes pas par peur de manquer, mais tu épargnes parce que tu as un projet qui plus tard va pouvoir servir à aider d'autres. Et en troisième, donne autant que tu peux. Alors ça, c'est excellent. Il reprenait le Confucius qui dit « Si tu rencontres un homme qui a faim, tu lui donnes un poisson ». S'il revient, tu l'apprends à pêcher. S'il revient encore, tu lui donnes une canne à pêche. Et puis il a rajouté, et nous les chrétiens, on fabrique des usines à canne à pêche. Donc en fait, le but, c'est d'aider les autres dans les besoins les plus primaires, mais aussi de les aider à s'en sortir, à pouvoir être autonome, à pouvoir retrouver une dignité de vie. Et il y a des gens qui auront besoin toute leur vie d'être assistés parce qu'ils ne sont pas capables, peut-être physiquement ou mentalement, de faire tout seul. Mais il y a des gens qu'il faut aider à se sortir de ces situations. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont hyper importantes et en quoi l'Église est appelée à travailler. En tant qu'Église, nous devons apprendre à partager avec générosité. Et là, ben, je sais que notre Église se met en marche dans plusieurs domaines. Il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place. Et nous voulons utiliser toutes les ressources que Dieu nous donne quand on est là-haut sur la montagne, dans nos temps de prière, dans nos temps de communion, pour pouvoir redescendre dans la vallée et marcher dans la vallée pour mettre en action tout ce que le Seigneur tout aura pu nous donner. Et vraiment, moi, j'ai à cœur pour cette Église de l'aider à rentrer dans ce fonctionnement, et je ferai tout ce que Dieu me donnera la capacité de faire pour aider cette Église à aller dans ce sens. Voilà.